Afghanistan.
Comment on dit en France ? Fraternité, liberté, égalité.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec... Sandra Freeman.
20 ans après la chute du mur de Berlin, nous allons parler de l'Allemagne. Quelle image donne-t-elle ? Goodbye Lénine, la vie des autres, la chute ? Quel sujet de société aborde le cinéma allemand ? Quel traitement de l'histoire ? C'est ce soir, à partir de 21h.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Amis pauvres qui touchaient le RSA, faites de la philosophie ! Ça rapporte 4500 euros net par an pendant 15 ans et en plus, contrairement au RSA, on ne vous demandera pas de faire des heures pour mériter vos émoluments. Bonne journée à vous, Yann Desvreux. Au revoir.
Ben bonjour Daniel, bonjour les AMG. Juste pour te dire que j'écoutais la radio ce matin, là tu vois, il est 6h35. Ben écoute, j'ai entendu que Nicolas Sarkozy avait dit qu'il était le président du pouvoir d'achat. Enfin voilà, c'est sur ces bonnes paroles, bonne journée à tous.
Bonjour là-bas si j'y suis, et là encore pour protester, quoi, parce que je trouve que l'émission sur le monde diplomatique est très intéressante, mais je commence à m'ennuyer, j'ai pas de nouvelles de Strauss-Kahn et je m'ennuie. Je vais écrire une lettre ou un mail, parce que c'est moi la bonne, à Monsieur S et à Monsieur Val, pour qu'on se permette de coûter encore une fois, s'il le faut, même deux fois, l'émission de Daniel Mermet, parce que on s'ennuie sans avoir de nouvelles de Monsieur Strauss-Kahn, voilà.
Salut, c'est Émilie de Haute-Loire. C'était pour annoncer à tous les AMG de Haute-Loire que le dernier Café Repère avant les vacances d'été aura lieu ce soir, jeudi 9 juin, et que, exceptionnellement, pour fêter la fin de l'année et l'été, et parler de la Révolution espagnole et de la nôtre, bientôt, on espère, on vous donne rendez-vous à 19h, devant l'église Saint-Laurent, au Puy-en-Velay, et ensuite on ira pique-niquer au bord de la Borne, tous ensemble. Donc il faut venir à 19h devant l'église Saint-Laurent, et avec un petit truc à boire et un petit truc à manger, à partager avec tout le monde. Si vous avez besoin de renseignements, il faut nous écrire un mail à l'adresse suivante, amg-haute-loire@hotmail.fr. Salut et fraternité, ciao.
Bonjour, Jérôme de Paris à l'appareil. Je vous téléphone parce que j'ai lu dans les journaux que Madame Bettencourt-Meyer s'était à nouveau fâchée avec sa mère. Donc c'est dans tous les journaux, à la télé, à la radio, sur Internet. Pour réagir à l'info, moi j'ai deux petites infos. Alors la première, c'est que bah, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Et la deuxième, c'est ça fait 5 ans que je ne parle plus à ma mère. Et ça, personne n'en parle. Enfin, en même temps, elle n'a pas un rond, ma mère. Voilà. Merci, c'était Jérôme. Au revoir.
Bonjour. On apprend qu'au Japon, un lapin est né sans oreille. Bon, dit comme ça, ça peut faire marrer. Un lapin sans oreille, c'est rien d'extraordinaire. Si on précise que c'est à Fukushima, déjà on rigole moins. Peut-être qu'un jour, on nous dirait qu'un enfant est né sans oreille à Fukushima. Là, ce sera plus drôle du tout.
Salut Mermet, salut les AMG. Jeudi 9 juin à 19h au Dercine de Métay, le repère de Annecy fêtera son 3e anniversaire. Au programme, partage et chansons. Avec de nombreux invités, le réalisateur Gilles Perret, les citoyens résistants, les indignados du papier Annecy, DSK, DSK non, il m'applique, vous ne pouvez pas venir, pardon. On boira, on chantera, on mangera, on rigolera. C'est au Dercine de Métay, jeudi 9 à 19h, qu'on se le dise et répète.
Bonjour à tous, Greg Dizès. Juste pour relayer une information que j'ai eue hier et qui est super, il y a Noam Chomsky qui passe samedi soir à Uzès pour présenter Chomsky et compagnie au cinéma d'Uzès, donc à 20h30. Je crois qu'il y a encore des places. Allez, bon courage à tous, ciao.
Et oui, cette nouvelle est juste. C'est vrai, sauf que c'est pas samedi, c'est vendredi, c'est demain, à Uzès, dans le Gard, au Capitole, un cinéma qui a été repris par une dame et qui en a fait un lieu de pour les passionnés de cinéma. Et bien notre film, Chomsky et compagnie, sera présenté. Sauf que le débat, après, aura lieu avec Noam Chomsky lui-même, oui, qui passe dans le coin, qui va se repose un week-end chez des amis et qui a accepté de venir débattre avec le public autour de ce film et d'autres questions que le public ne manquera pas de lui poser. Hélas, on aura, pour des raisons enfin, compliquées, on ne pourra pas être présent. Mais enfin, voilà, ce sera un grand moment. Manque de chance, je pense que c'est, toutes les places sont retenues pour demain soir à Uzès. Alors bon, ben voilà, Chomsky est un intellectuel et vous savez quoi, on vient de découvrir qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres où la plupart d'entre nous pensent qu'il n'y a que Bernard-Henri Lévy, tellement il est lumineux, tellement il est éblouissant. Eh bien, il y en a d'autres. Et par exemple, André Gorz. André Gorz, qui est mort en 2007, est le théoricien de l'écologie politique. Il est cité très souvent par les Verts, par les écologistes, et tous ceux qui se réclament de l'écologie politique. Mais on peut quand même s'inquiéter au moment où on parle beaucoup d'écologie, le gaz de schiste, Fukushima, tout un tas de problèmes qui se posent, et puis les prochaines élections. On s'intéresse beaucoup à l'écologie et à l'écologie politique. Mais alors, cette référence à André Gorz pose quand même un certain nombre de problèmes, parce que l'écologie politique telle qu'il la concevait, eh bien, c'était un rejet de la logique capitaliste. Et même, à la fin de sa vie, à la fin de son œuvre, il annonçait la sortie du capitalisme a déjà commencé. Alors, on s'est posé des questions avec l'équipe de là-bas, si j'y suis. On s'est dit, concernant les écolos, les Verts, soit sous leur dehors aimable et gentillet, les écolos sont en train de préparer la révolution anticapitaliste, et il faudrait quand même le savoir et le dire, ou bien c'est comme le t-shirt avec l'image de Che Guevara, c'est juste l'image, mais c'est pas pour de vrai. En tout cas, ça nous a donné envie d'en savoir plus sur André Gorz et de vous le faire découvrir ou redécouvrir. Je vous présente tout ça d'une manière un petit peu rigolote, mais forte en tout cas, parce qu'on a vraiment envie de ça, on a envie de partager cet entretien qu'on va avoir avec lui, que c'est pas nous qui l'avons eu, c'est pourtant Radio France, en 1991, sur France Culture. Marie-France Hazard a fait une série d'émissions intitulée « À voix nue », c'est une série fameuse sur France Culture, d'entretien avec André Gorz. C'est là, essentiellement, que nous avons puisé les archives qui vont constituer l'essentiel de cette émission d'aujourd'hui, et avec également Christophe Fourel, qui a dirigé un livre aux éditions de la Découverte sur André Gorz, un penseur du 21e siècle, avec toute une série d'auteurs autour de l'œuvre d'André Gorz. André Gorz était né à Vienne en 1923. Avant de penser l'écologie, disons l'écologie politique, il a eu tout un parcours qu'on va évoquer, l'existentialisme, il a rencontré Sartre, notamment il a été journaliste au journal L'Express, puis au Nouvel Observateur, et il a donc développé, à travers ses livres et ses interventions diverses, ce qu'il appelait l'écologie politique. Il s'est intéressé aussi au travail, au temps libéré, toute une série de sujets qui sont des sujets de l'époque, des années 60, des années 70, puisqu'il commence sa critique avec la critique de la société de consommation dans les années 60. Donc des idées souvent liées avec l'époque, mais qui ont influencé la fin du XXe siècle, disons, et qui sont aujourd'hui une formidable boîte à outils et une formidable réserve de grains à moudre pour ceux qui cherchent des alternatives à ce libéralisme économique qui commence à puer pas mal. Voilà notre sujet du jour, André Gorz. Donc, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Mon petit Nicolas d'amour, tu veux te racheter aux yeux des indignés ? Fais un petit putsch avec la Grèce, l'Espagne et l'Italie et fais une belle dévaluation gaulienne à 1 euro égal à 1 dollar. Tu laisses l'Allemagne reprendre son marque pour que Miss Merkel soit réélue par ses vieux. Allez, n'est pas de Gaulle qui veut. Bisous.
Salut les AMG de l'Isère, c'est Claude du repère de Saint-Bernard-du-Touvet sur le plateau des Petites Roches. Le prochain rendez-vous aura lieu vendredi 10 juin au Sabot des Muses à 18h30. Nous avons invité le Mouvement de la Paix pour parler de leur position face aux différents conflits et révolutions dans le monde. Venez nombreux, on vous attend.
Bonjour, ici le repère de Là-bas si j'y suis de Marseille. Du besoin de sécurité à la frénésie sécuritaire, où allons-nous? C'est de cette question que nous débattrons avec Laurent Mukeli le jeudi 9 juin à 19h30 à l'Équitable Café. Ce repère sera ponctué par les interventions sensibles et musicales du groupe Alcaz, une chanson pour laquelle le cœur se bat bien. Bonne journée à tous.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est Là-bas si j'y suis. André Gors, un penseur pour le 21e siècle avec Christophe Fourel.
Flight number 2, arriving from New York.
Je n'ai pas les moyens constitutionnels, si vous voulez, psychiques, spirituels, je n'ai pas les moyens pour avoir une volonté de puissance. Sauf le pouvoir que vous donne la contestation. J'estime d'ailleurs que le rôle des intellectuels, au sens traditionnel du terme, pas au sens que ça a pris d'aujourd'hui, que la mission des intellectuels, c'est de contester. Le radicalisme dans la pensée consiste dans la contestation radicale. Mais la contestation radicale a besoin de critères.
Dans cet extrait, on a à la fois une question et une réponse. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu cette voix plus souvent ? Mais on a la réponse, parce que peut-être trop contestataire et trop radical. Cette voix, c'est celle d'André Gors, qui est un journaliste et philosophe, penseur pour le 21e siècle. C'est le titre d'un livre que vous avez dirigé, Christophe Fourel, et qui nous donne l'occasion d'évoquer cet homme, ce penseur, et sa pensée. Pourquoi ? Parce que récemment, il y a eu une suite d'événements, les questions du gaz de schiste, la catastrophe de Fukushima, qui nous a reposé la question du nucléaire, des questions d'énergie, la candidature de Nicolas Hulot, etc. Si bien que l'écologie est revenue au premier plan, et ça nous a ramené à une question, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit écologie ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot écologie ? Parce qu'après tout, le maréchal Pétain disait « la terre ne ment pas ». Hitler était végétarien, il ne faut quand même jamais oublier. Je pense que Marine Le Pen a sa petite idée sur l'environnement, tout comme Nicolas Sarkozy avec son Grenelle de l'environnement. Or, André Gors est lié à l'idée d'écologie politique. Il a développé cette idée d'écologie politique. Sa pensée ne se résume pas à ça, mais c'est quand même ce qui est attaché à son nom, ce qui est lié à son nom, c'est l'écologie politique. Comment, la question la plus difficile pour commencer, comment vous situez André Gors dans le paysage intellectuel général ?
Écoutez, je crois qu'il a une place à part. Je crois que vos propos liminaires l'illustrent assez bien. André Gors est un personnage dans la pensée intellectuelle et européenne, pas seulement française, est un personnage à part parce que il a lui-même un itinéraire tout à fait hors norme. André Gors, vous avez dit qu'il était philosophe tout à l'heure, mais c'est un autodidacte. C'est quelqu'un qui a élaboré une pensée tout à fait originale, qui certes a un écho pas immédiat, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est systématiquement été branché sur l'actualité, mais je crois que sa pensée inspire de nombreuses personnes, et en particulier aujourd'hui la pensée des écologistes. On peut dire qu'il est un inspirateur de l'écologie politique, ou un père spirituel de l'écologie politique, parce qu'il a mis en avant à quel point notre système économique était antinomique avec l'écologie politique. Il est venu à l'écologie politique par la critique de la société de consommation, et ce, dès le début des années 60.
Alors, on va commencer par son identité. parce que on dit André Gorz, mais il s'appelait pas André Gorz. Il s'appelait Gerhard Hirsch, puis Gerhard Horst, puis André Gorz, et il a été connu aussi sous son nom de journaliste, de Michel Bosquet. Ça fait quand même quatre identités, et on va l'entendre se définir et se présenter lui-même.
Mon père était juif et ma mère était catholique. Et comme tous les Viennois, comme tous les centres européens, plutôt antisémite par sa tradition familiale. Ce qui fait que je suis né dans une famille où rien de ce qu'on pouvait attendre de moi n'était ce que je pouvais fournir. C'est-à-dire que l'attente des uns comme des autres était une attente que je ne pouvais pas satisfaire. C'est donc par rapport à ma famille, à la culture originelle, aussi bien paternelle que maternelle, en porte-à-faux. Et toujours coupable. Coupable de ne pas être ce qu'on attendait de moi, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Comment dire ? J'étais rejeté sur moi-même. Il n'y avait aucune vérité, aucune attente dont je pouvais dire voilà ce que je dois faire. Parce que je ne pouvais pas. Donc j'étais un fils plutôt soumis à ma mère, qui essayait de correspondre à son attente à elle, tout en sachant que c'était impossible. Et comme elle attendait de moi que je sois un arien viril et germanique, il est évident que ma soumission à elle était exactement le contraire de ce qu'elle pouvait attendre de moi. Et de là vient de ce que j'appelle l'absence d'identité, c'est-à-dire que je suis né sans image de moi-même. J'ai grandi sans avoir aucune image de moi-même. En plus, ma famille a changé de nom une première fois en 1930, puisque mon père avait un nom qui peut être juif, qui peut ne pas être juif, mais en tout cas, comme il a jugé préférable de changer de nom. Ce qui fait que je n'ai même pas une identité nominative, nominale. C'est pour ça que je change de nom très facilement. J'ai un nom allemand au départ. Et quand j'ai commencé à faire du journalisme en France, c'était en 51, dans un journal qui s'appelle Paris Presse, ils m'ont dit, c'est pas possible que tu signes d'un nom allemand, les Français n'aiment pas les Allemands. J'ai traduit mon nom, Horst, en français. Une des traductions possibles, c'est Bosquet. Et alors oui, on m'a dit, Gérard, il y en a déjà trop, il faut que tu changes ça aussi. Alors, j'ai pris Michel.
En 1951, Gorz commence dans le journalisme sous le nom de Michel Bosquet, mais auparavant, la grande rencontre de sa vie, ce sera la rencontre avec Jean-Paul Sartre.
Absolument, c'est une figure pour lui presque paternelle. Jean-Paul Sartre avait une vingtaine d'années de plus que lui, et c'est par la découverte de Jean-Paul Sartre qu'il va commencer à forger sa pensée et se former à la philosophie. En s'appuyant sur les textes de Sartre, il lit bien sûr, André Gorz, tout jeune, lit La Nausée, Le Mur, et puis en 1943, il va tomber sur ce monument de la philosophie sartrienne qui est L'Être et le Néant. Et c'est à partir de la lecture de L'Être et le Néant qu'il va vraiment essayer de suivre et s'inspirer de la pensée de Jean-Paul Sartre, au point d'ailleurs qu'il cherchera à prolonger la pensée de L'Être néant que André Gorz, à cette époque-là, juge insuffisamment opérationnel. Et puis il présentera d'ailleurs ce texte de 1500 pages à Jean-Paul Sartre, qui, à l'époque, c'est à la fin des années 50, est un peu distrait et n'attache pas plus d'importance que ça à l'écriture de ce traité.
À l'époque, Sartre est prépondérant, hein, c'est l'intellectuel français.
À cette époque-là, vous avez raison, Sartre est au sommet de son prestige public, incontestablement. Et c'est d'une certaine manière le fait que Sartre, finalement, ne donne pas véritablement de suite à le traité que vient d'écrire le jeune Gerhard Horst, qui va obliger ce jeune homme à se lancer à nouveau dans un exercice complètement fou et qui va donner naissance 2 ans après à un ouvrage qui, pour le coup, va le révéler, cet ouvrage qui s'appelle Le Traître et qu'il sera d'ailleurs préfacé avec un avant-propos très élogieux d'une quarantaine de pages de Jean-Paul Sartre et qui est le premier ouvrage d'André Gorz, qui est un ouvrage tout à fait étonnant, quelquefois difficile à lire, mais en même temps passionnant parce que c'est une analyse existentielle. Et il cherche par cette méthode à pouvoir s'autoriser à dire « je ».
Sartre, c'était celui auquel je pouvais m'identifier parce que, comme philosophe, il se mettait à penser apparemment à partir de rien. Il ne prenait pas les concepts des autres, il forgeait ses propres concepts. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui part de pratiquement rien pour construire sa pensée, chemin faisant, de façon cohérente. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu chez lui. C'est quelqu'un qui ne se situe pas dans une école et dont les critères ne sont pas des critères reçus, ce sont des critères inventés, fondés, construits. Pour moi, Sartre, c'était la négation, surtout la négation de tout ce qui était pour moi inacceptable et inassimilable. On a probablement du mal à l'imaginer aujourd'hui, quelqu'un qui était rejeté par tout le monde, avec une hargne et une hostilité qu'on trouve rarement dans l'histoire de la littérature. Il était rejeté comme un pervertisseur de la jeunesse, comme nihiliste, comme ennemi de la classe ouvrière, tout ce qui est rejeté par la droite autant que par la gauche. Donc c'était mon homme, c'était celui que tout le monde rejetait, je pouvais m'identifier à lui. Il était, à sa façon, un exclu dans tout le système des valeurs et dans tout le système culturel ambiant. Alors quand il est venu en Suisse, invité par une association d'études des lettres, comme il y a des gens qui savaient que j'avais lu tout ce qu'il avait écrit, ils m'ont invité. Après, il y avait un cocktail et j'ai accaparé Sartre pendant une heure et demie. Dès que je me suis assis à côté de lui, et puis on a parlé interminablement, il m'a beaucoup séduit et aidé, en un sens, par une vitalité très généreuse. Vous savez, moi, je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Non, puisque sa philosophie de l'époque, c'était une philosophie de l'échec, de l'injustifiabilité, de la culpabilité, et de l'échec inévitable, qui se terminait, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'être aimant se termine, que de ce point de vue-là, il revient au même, d'être conducteur des peuples ou de s'enivrer solitairement. C'est-à-dire que l'ivrogne ou les dictateurs allaient également à l'échec inévitable qui était inscrit dans ce qui était normalement le projet fondamental de l'homme. Alors moi, je m'attendais à un type pour qui, effectivement, tout se vaut, mais négativement, c'est-à-dire que rien ne vaut, et rien ne vaut rien, et tout vaut rien. Et j'ai trouvé quelqu'un d'une grande vitalité qui il remplissait l'espace autour de lui, il le remplissait dangereusement, puisque pour prendre sa cigarette, il levait le coude jusqu'à la hauteur de l'épaule, il donnait donc des coups de coude autour de lui tout le temps. Les gens n'osaient plus approcher, puisqu'il était tout le temps en train de bouger. Et il parlait avec une joie de vivre contagieuse. Nous avons parlé surtout de la méthode régressive-progressive, donc de la façon dont on peut reconstruire une personne et par quelle méthode de questionnement. Et quand j'ai eu terminé donc cette entreprise d'auto-compréhension et d'auto-remaniement, d'auto-changement, je lui ai dit, vous ne voulez pas me faire une préface à ça? Il a dit, écoutez, si je vous fais une préface, ça va vous marquer. Vous serez compromis avec moi pour toujours. Alors, je vous fais une composition honnête, dit-il. Je ne vous fais pas de préface, mais je vous fais une critique dans un journal littéraire. Alors, je dis, ce n'est pas une critique. Vous me faites une préface et je serai compromis pour toujours avec vous. Je ne demande rien d'autre. Il m'a fait une préface. Il a mis le temps. C'est une très belle chose. Une des très belles préfaces, un des très beaux textes qu'il a fait. Mmh. Oui, oui. Si vous voulez vraiment arriver à penser comment vous êtes devenu ce que vous êtes et comment vous pouvez devenir quelqu'un qui est capable de dire ça c'est moi. Mais ce n'est pas le conditionnement, ni l'éducation, ni la socialisation, ni l'ère du temps qui me fait penser ça, c'est moi qui le pense. Et bien il faut d'abord il faut se dépouiller de tout, ce qui ne m'était pas difficile, mais surtout il faut être sans aucune complaisance envers les sédiments que chacun charrie avec soi et qui sont des empreintes qu'il a reçues, souvent sans comprendre pourquoi et sans s'en apercevoir, de son histoire et de son enfance. Et du moment que vous savez que ces empreintes existent, vous pouvez non pas les effacer, vous pouvez vous en servir. J'ai reçu beaucoup de lettres de gens qui ne me ressemblent en rien, c'est-à-dire qui ne sont ni bâtards juifs ariens, ni centre-européens, ni. Voilà, qui ont dit c'est moi, je me suis reconnu. Bien sûr qu'ils ne sont pas reconnus dans tout, mais ils sont reconnus dans le problème. Quel problème ? Comment est-ce qu'on peut devenir quelqu'un qui est capable de dire je ?
Échapper au déterminisme et au conditionnement, non pas les effacer mais s'en servir, c'est une pensée très ancienne. Hein ? Il n'y a pas quelque chose de nouveau là. Christophe Fourel.
Il n'y a pas quelque chose de nouveau. En même temps, je crois que André Gors, à l'occasion de la rédaction du Traître, a poussé l'exercice très loin. Et c'est ce qui fait que ce texte est étonnant. Parce qu'il y a une dimension à la fois psychanalytique, c'est-à-dire il revient sur les conditions de son enfance et un certain nombre de traumatismes. Mais en même temps, Gors ne s'en tient pas simplement à l'aspect purement psychanalytique des choses. Il essaye de resituer ça dans l'histoire, avec un H majuscule, si vous voulez. Il essaie de rassembler tous les éléments qui font qu'il est à cette place, à ce moment-là, et pourquoi. Et c'est à partir de toute cette analyse à la fois historique, et il se base beaucoup également sur l'œuvre de Marx dès le début pour comprendre sa situation, sa propre situation, et effectivement à partir de sa connaissance de la psychanalyse qui parvient à effectivement faire ce remaniement de sa propre personne et réussir cette conversion morale selon l'acception existentialiste et qu'il arrive à faire effectivement ce remaniement avec l'aide de Jean-Paul Sartre.
André Gors, sa voix, la morale de l'histoire.
Donc j'ai passé à autre chose, puisque, ayant compris que la solution de vos problèmes existentiels ne sont jamais en vous-même, dans le remaniement de vous-même, mais dans le dépassement de vous-même dans une action qui soit reconnaissable par les autres, c'est-à-dire qui laisse des traces objectives, les questions que je me suis posées étaient des questions... mettons, éthico-politique. J'ai commencé à m'expliquer avec Marx et le marxisme. Et c'est l'ouvrage suivant, qui s'appelait La morale de l'histoire, qui n'est pas très bon, mais qui contient de bonnes choses, en particulier des morceaux de théorie de l'aliénation dans la consommation, dans le travail bien sûr, et l'aliénation par la rationalité économique. Ce livre, il a eu des lecteurs chez les étudiants communistes. Mais j'avais toujours été lié à l'extrême gauche, mais à une extrême gauche insoumise, c'est-à-dire non-conformiste, qui n'aimait pas ce dogmatisme du Parti communiste français. Non, je ne pouvais pas m'entendre avec un parti, mais j'estimais encore à l'époque que le Parti communiste français, ça valait rien, mais qu'il fallait changer. Moi donc, j'étais quelqu'un qui estimait que le marxisme et la problématique de l'exploitation dans le marxisme étaient une fausse piste, et que le radicalisme ouvrier, que le radicalisme subversif contestataire était une question d'oppression et d'aliénation beaucoup plus que d'exploitation économique. Ça, c'était la thèse que j'avais défendue dans ce livre. Mais c'est des choses qu'on trouve chez Marx. Certes, c'est important. Les questions salariales, les questions de redistribution, de la plus-value, de lutte contre l'exploitation et ses méthodes. Mais si le mouvement ouvrier devient hégémonique, ça ne sera pas à cause de ça. S'il devient hégémonique, ce sera parce qu'il sera porteur d'une idée et d'une pratique d'émancipation des gens de toutes les formes d'oppression, d'humiliation, d'instrumentalisation et de mutilation que leur impose la division du travail, la technicisation et l'expropriation dont ils sont l'objet, l'impossibilité de se reconnaître en tant qu'agent dans cette pratique qu'est le travail.
La voix d'André Gors en 1991, sur France Culture, on a voulu faire entendre à nouveau cette voix. On avait promis au départ qu'on allait parler d'écologie. Quel lien vous faites entre ce qui est dit là, ce que dit Gors, cet ouvrage qu'il évoque, La morale de l'histoire, et ensuite sa pensée sur l'écologie, je le rappelle, pensée sur l'écologie politique et anticapitaliste?
Alors effectivement, La morale de l'histoire est l'ouvrage qui fait paraître en 1959. Et comme il le dit dans les toutes premières pages de cet ouvrage, André Gorz explique qu'il vient de traverser l'œuvre de Marx, c'est son expression. Mais en même temps, il est totalement insatisfait de la façon dont était relayée la pensée de Marx à l'époque. Et dans La morale de l'histoire, effectivement, André Gorz commence à élaborer une théorie de l'aliénation et il essaie de montrer comment et par quelle voie on peut à la fois s'émanciper du travail et s'émanciper dans le travail. Et là, déjà, on voit poindre l'écologie politique chez André Gorz, curieusement, parce que André Gorz avait une conception de l'écologie qui était d'abord l'écologie au sens du milieu de vie, déterminant de la qualité de vie. Donc, il ne va jamais escamoter la question du travail des hommes dans leur vie quotidienne. Et puis, en même temps, dans cet ouvrage, il va faire l'analyse de la société de consommation, parce que André Gorz pense toujours l'homme à la fois producteur et donc travailleur, mais également l'homme consommateur, et d'essayer de comprendre en quel sens il est justement aliéné dans un système économique qui le domine. Et donc c'est quand même le socle de base de sa pensée d'écologiste qui est en train de naître à ce moment-là.
Alors, il va se lancer ensuite dans une critique du syndicalisme qui va être diversement appréciée. Il faut quand même se souvenir que dans les années 60, début des années 70, c'est le plein emploi, et il y a une critique de l'aliénation dans le travail. Hein, on a perdre sa vie à la gagner, on a des chansons, on a des tas de choses sur les prisonniers du boulot font pas des vieux os. Le travail est remis en question. 30 ans plus tard, aujourd'hui, la question, c'est le travail, le chômage partout. Et la question aussi, c'est qu'il n'y a plus assez de travail pour tout le monde. C'est au moins ce que pense Gorz, il y a 20 ans, et ce que pensent pas mal d'autres observateurs, à commencer par ceux qui n'ont pas de boulot. Là, on a basculé. Et là, il se lance dans une critique du syndicalisme qui date de 1991.
Il y a un problème de régression syndicale qui tient un très grand nombre de facteurs. Ça tient au fait que de moins en moins de gens arrivent à s'identifier à leur travail. Toute la classe ouvrière classique, pour ne pas dire traditionnelle, considérait que le travail est source de puissance, sinon de pouvoir. C'est-à-dire que le travailleur, par sa fonction productive, à la fois technique et économique, détient un pouvoir dans la société qu'il devrait arriver à traduire en termes politiques. Ce pouvoir technique, il n'y a aucune raison qu'il ne le rende pas dominant en tant que classe dans la société. Et c'était vrai aussi longtemps que les industries qui employaient le plus de main-d'œuvre étaient les industries essentielles dans une économie. Par exemple, les mineurs, les sidérurgistes, les chaudronniers, les ouvriers du bâtiment étaient les héros de la production. Mais ça n'est plus le cas. La structure industrielle a complètement changé. L'industrie dégage de la main-d'œuvre au lieu d'en recruter. Et le travail n'est plus source de pouvoir, même dans l'industrie. Parce que le travail a été beaucoup plus étroitement fonctionnalisé qu'à l'époque où il y avait des mineurs, des sidérurgistes, etc., etc., qui avaient un savoir-faire irremplaçable, qui avaient des trucs professionnels qui ne s'apprenaient pas. Et à partir du moment où vous standardisez les actes productifs, les actes techniques, et qu'ils deviennent réalisables par n'importe qui après une formation de quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois au mieux. Donc l'ouvrier devient interchangeable. Il a beaucoup de mal à s'identifier à sa tâche. Et s'il s'identifie à sa tâche, cette identification n'est plus pour lui une source de pouvoir. Son pouvoir ne peut renaître que sur un autre plan que celui du travail, qui est celui de la contestation politique. Premièrement, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de produire comme nous produisons? Et deuxièmement, est-il vraiment nécessaire de produire ce que nous produisons? Et la réponse est généralement négative. Il y a une contestation professionnelle qui entre dans l'industrie par le biais non plus du syndicat, mais par le biais des citoyens. Parce que ces ouvriers agissent comme citoyens et non plus comme syndiqués. Et cette question est centrale, puisque le problème écologique est central, et que jusqu'à présent, très peu de syndicats ont réussi à inscrire le problème de la conversion écologique dans leur programme de politique syndicale. Parce que dans la mesure où ils défendent des intérêts professionnels d'ouvriers qui sont censés s'identifier à leur travail, parce que l'éthique du travail, c'est ça, ils ne peuvent pas. On ne peut contester les finalités et les modalités de la production que si on prend du recul par rapport à cette production. Il s'agit d'un changement de paradigme. C'est le plus de savoir, est-ce qu'on est bien payé et bien traité dans ce qu'on fait ? La question est-ce qu'on doit faire ce qu'on fait ? Ça devient finalement une question morale, une question éthique. C'est un chapitre qui annonce l'écologisme, si vous voulez, la critique d'un modèle de consommation qui cherche à satisfaire des besoins avec le flux maximum de marchandises aussi sophistiquées que possible. Vous avez une façon bouddhiste de satisfaire les besoins, c'est de les satisfaire au moindre coût, avec la moindre quantité, la moindre dépense de travail, la moindre destruction de l'environnement. Et puis vous avez une méthode qui est celle caractéristique de la civilisation capitaliste, qui est de dire les besoins sont là pour permettre de faire tourner la machine et de produire de plus en plus en réalisant de plus en plus de plus-value, c'est-à-dire de profit sur ce qu'on produit. Et qu'il faut toujours ajouter du superflu et du luxe au nécessaire. Il faut vendre le nécessaire sous l'image du luxe et du superflu.
Christophe Fourel, comment cette critique du syndicalisme a-t-elle été accueillie en général et en particulier par les syndicalistes à l'époque ?
Écoutez, André Gors est connu aussi pour être un philosophe du travail et un philosophe du sens. C'est vrai qu'il a été, tout au long de son œuvre, très proche du monde ouvrier, très proche du monde syndical. Il a écrit en 1964 un ouvrage tout à fait fondamental dans son œuvre qui s'appelle « Stratégie ouvrière et néo-capitalisme ». Mais quelquefois, sa pensée très originale l'a mis en porte-à-faux avec le syndicalisme qui finissait par se dire que la pensée d'André Gors était en train d'un petit peu scier la branche sur laquelle effectivement le syndicalisme était assis. Je crois que Gors mettait l'accent sur le fait que dans le système capitaliste, les travailleurs, les personnes sont de plus en plus confrontés à une difficulté d'identification à leur travail. Et il a notamment, en 1980, fait paraître un ouvrage qui était assez connu d'ailleurs, parce qu'il avait fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle « Adieu au prolétariat ». Et justement, qui a suscité beaucoup des débats avec le monde syndical, en particulier Edmond Maire, qui était à l'époque le leader de la CFDT, dans la mesure où André Gors avait identifié dans cet ouvrage ce qu'il appelait la non-classe des non-travailleurs. C'est-à-dire pas seulement les gens qui sont exclus du travail, mais ces gens qu'il considérait comme de plus en plus nombreux et qui étaient ceux qui ne pouvaient pas s'identifier à leur travail. Et on voit bien que le système économique aujourd'hui, qui parcellise les gens, qui spécialise les gens, ou qui prive véritablement les personnes de leur propre savoir-faire professionnel, fait que les travailleurs, les salariés, ne peuvent pas se reconnaître pleinement dans leur travail. Et on voit bien que, en plus de ce phénomène, peu à peu, le travail salarié à plein temps s'est complètement délité, puisqu'il y a, à côté d'un chômage de plus en plus massif, plus en plus de gens qui sont au travail de façon intermittente. Même en ayant un travail, ce n'est pas la garantie de sortir de la pauvreté, puisque s'est développé le phénomène de ce qu'on appelle aujourd'hui les travailleurs pauvres. Donc on voit bien que le monde du travail s'est complètement délité. Et d'une certaine manière, cette actualité, cette réalité donne un petit peu raison à André Gors dans sa capacité à voir que justement, c'est pas qu'il n'y a plus de travail qu'il voulait dire, mais la forme emploi du travail, c'est-à-dire au sens salarié, à temps plein, 35 heures par semaine et pour une vie entière est quelque chose qui est en train d'être complètement dépassé.
Il était journaliste, on l'a dit en commençant. Quelle est la part du journaliste et du philosophe dans ce travail-là, sur sa réflexion sur le syndicalisme ?
Alors, il était effectivement journaliste. Il a commencé sa carrière comme journaliste à Paris Presse en 1951. Puis très vite, il est rentré en 1955 à l'Express. Puis ensuite, en 64, il est devenu un des cofondateurs du Nouvel Observateur. Mais c'est sous son pseudonyme de Michel Bosquet qu'il est connu comme journaliste, en fait. Et André Gors est son pseudonyme de philosophe. Philosophe du sens, du travail, de la pensée post-capitaliste. Mais, comment dire, son travail de journaliste et d'observateur de la réalité sociale a toujours servi le philosophe André Gors pour le théoricien.
Quel genre de papier il faisait ?
Alors, Michel Bosquet, en tant que journaliste, très vite a été spécialisé sur les rubriques économiques et sociales.
Oui, c'est ça.
Simplement, il a laissé beaucoup dans les esprits la mémoire de quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux problèmes écologiques très tôt, et puis surtout de la question du nucléaire. André Gors a laissé derrière lui des dizaines et des dizaines de papiers sur le système nucléaire.
Dans les années 60 ?
Le premier article qu'il a écrit sur le nucléaire date de 1963. C'est un article qu'il a écrit pour l'Express et qui était une enquête sur l'usine de Pierrelatte, qui est l'usine qui fournit en fait le combustible pour les centrales nucléaires aujourd'hui. Donc très tôt, il s'est intéressé effectivement à l'industrie nucléaire et il a critiqué énormément.
Dès 1963.
Dès 1963.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme on a mes consciences, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
On continue avec vous, Christophe Fourel. Au début des années 70, il y a un journal écologiste qui apparaît, qui s'appelle Le Sauvage, après La Gueule Ouverte. Auparavant, il y a eu La Gueule Ouverte de Charlie Hebdo et Le Nouvel Observateur, je crois, c'est ça, ou L'Observateur. Sort Le Sauvage, ça, c'est le même éditeur.
Je ne sais pas si c'était le même éditeur. En tout cas, c'est vrai que c'était un mensuel qui avait été créé par Alain Hervé. Et c'est un mensuel, le Sauvage, auquel André Gorce a beaucoup contribué parallèlement à son activité de journaliste au Nouvel Observateur. Parce que à cette époque-là, si vous voulez, André Gorce cherche par tous les moyens, par tous les canaux possibles, à diffuser un petit peu la pensée de l'écologie politique qu'il est en train de forger. Et il se trouve également que c'est à cette même période-là, au début des années 70, qu'il va faire la rencontre d'un autre personnage après Jean-Paul Sartre qui va beaucoup compter pour l'évolution de sa pensée, qui est la personne de Ivan Illich, qui est également un penseur incontournable aujourd'hui quand on cherche à réfléchir aux questions de l'écologie politique. Il se trouve que le hasard a fait que Ivan Illich était, comme André Gorce, né à Vienne en 1926, c'est-à-dire 3 ans après André Gorce, mais lui a un parcours très différent qui va l'amener ensuite au Mexique, où il va à Cuernavaca monter un centre d'information et il va développer sa pensée. Et on sait très bien aujourd'hui qu'un certain nombre de notions qu'on utilise dans la vie courante, par exemple celle de contre-productivité, est une notion élaborée par Ivan Illich, que André Gorce utilisera, puisqu'il a été, avec d'autres comme Jean-Pierre Dupuis, ceux qui ont introduit la pensée d'Ivan Illich en France, et qui est une pensée importante pour l'écologie politique, effectivement.
Ce qui se passe quand même, c'est qu'on a l'impression qu'il est plus radical que ceux qui se réclament de lui. Gorce. Je suppose les Verts aujourd'hui se réclament de lui, mais enfin, lui, il est sur une pensée, encore une fois, radicale en matière d'écologie et absolument anticapitaliste. Il trouve qu'il y a une incompatibilité totale entre l'écologie telle qu'il l'entend, pas seulement la nature et l'environnement, mais aussi la société, aussi le social, et le capitalisme.
Oui, effectivement.
Et ceux qui se réfèrent à lui, je pense au Nouvel Observateur, etc., ne sont pas anticapitalistes.
Écoutez, je pense que vous avez raison sur le fait que André Gorce apparaît toujours plus radical que ceux qui ont suivi sa pensée. Simplement, j'ai l'impression que les choses sont en train d'un petit peu changer à ce niveau-là. Si on regarde du côté des politiques, et c'est là où je trouve ça intéressant, vous avez des jeunes femmes qui revendique clairement que Gorce est pour elle un inspirateur. Et parmi elles, vous avez aujourd'hui Cécile Duflot, qui est la leader des Verts, qui le dit très clairement. Et puis vous avez des gens comme Clémentine Autain, qui effectivement fait partie plus d'une mouvance de la gauche radicale. Et puis plus récemment, après le drame de Fukushima, vous avez des gens comme Aurélie Filippetti qui, au sein du Parti Socialiste, essaie de faire évoluer le Parti Socialiste sur la question du nucléaire. Alors je ne sais pas si elle revendiquerait une sorte de filiation avec André Gorce, mais il n'empêche que son attitude qui cherche à faire évoluer le Parti Socialiste sur cette question-là peut d'une certaine manière être raccrochée à la pensée d'André Gorce.
Une politique écologique est nécessairement une politique anticapitaliste, une politique qui cherche à limiter le champ de la consommation marchande et des échanges marchands.
On continue avec André Gorce, sa voix, son œuvre. Il fait une critique, entre autres, de la culture.
Alors, du moment qu'il existe une demande potentielle qui permet de rentabiliser une industrie, par exemple l'industrie des embryons ou le commerce d'organes, en vertu de quoi allons-nous y opposer si nous posons que le critère d'évaluation unique et suprême, c'est la rentabilité, l'expansion du commerce, de l'industrie et la création d'emplois. Mais ce n'est pas des comités d'éthique qu'il faut charger de ça. Il faut nous rendre compte que nous vivons dans une civilisation qui a détruit la culture. Il a détruit par la spécialisation de tout et de n'importe quoi, la technicisation de tout et de n'importe quoi et l'évaluation de tout en fonction de critères économiques. Nous ne sommes jamais allés aussi loin potentiellement dans la soumission de la vie et du sens de la vie à des critères totalement extrinsèques, c'est-à-dire utilitaires et technicistes. Donc ce ne sont pas des comités d'éthique qui vont nous sortir de l'auberge, parce que quel est le pouvoir d'un comité d'éthique? Il est nul. Ils donnent des avis et puis on en tient compte ou on n'en tient pas compte. le symptôme de cette crise, ce qu'on appelle la crise du sens, la crise d'orientation et l'expression, c'est que nous n'avons plus de culture du quotidien. C'est que les gens ne sont plus chez eux dans leur vie, ils ne sont plus chez eux dans le monde qu'ils habitent, ils ne sont plus chez eux dans leur travail, ils ne sont chez eux nulle part. Et contre cela, le mouvement écologiste est une des principales formes de rébellion. Le mouvement écologiste est avant tout un mouvement des gens pour se réapproprier leur vie et leur milieu de vie et pouvoir le soumettre à leurs propres décisions, à s'en rendre maître de nouveau.
Voilà la définition, là c'est clair, la définition qu'André Gors donnait de l'écologie.
Oui, ce qui est intéressant, je trouve, dans cet extrait, c'est que André Gors dit à quel point, effectivement, dans notre société dominée par la logique économique aujourd'hui, eh bien, la culture a été effectivement détruite, au sens où les choses sont tellement parcellisées que, comme il le disait lui-même, dans notre quotidien aujourd'hui, nous produisons rien de ce que nous consommons. Et nous ne consommons rien de ce que nous produisons. Donc l'individu producteur-travailleur et l'individu consommateur sont complètement séparés et il n'y a plus d'unité de la personne. Et c'est ce qui lui fait dire qu'aujourd'hui, dans notre société, qui est en quête de sens, qui est en quête d'orientation, elle est en quête de sens, elle est en quête d'orientation parce qu'elle a perdu la capacité à produire une culture du quotidien, où les gens, comme il le dit lui-même, se sentent chez eux quelque part, se sentent dans un milieu de vie qui leur est naturel, un milieu de vie où la qualité de la vie peut primer. Et aujourd'hui, notre société fait qu'elle favorise une forme de repli sur soi ou un repli sur la consommation individuelle, justement pour être là, pour contrebalancer les insatisfactions que les gens ont, que ce soit dans le cadre de leur travail ou dans le cadre de leur environnement immédiat qui apparaît comme quelque chose qui n'a plus de sens.
Y compris la consommation d'objets ou de produits bio ou à prétention ou à présentation écologiste. On a le greenwashing, on a le green business qui se sont développés, c'est-à-dire que la récupération de l'écologie est en marche. Là aussi, la pensée de Gors semble utile en ce qu'elle est une critique radicale du productivisme et du capitalisme.
Absolument. Et je crois justement que la pensée radicale, comme vous dites, d'André Gors, c'est justement de montrer à quel point il ne peut pas y avoir de récupération de l'écologie par le capitalisme. Ces deux choses-là sont absolument antinomiques. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est la soumission de toute la vie à la logique économique et qui est en train de démontrer l'impasse dans laquelle nous sommes rentrés et que si nous ne changeons pas complètement de logique de façon radicale, eh bien, effectivement, le capitalisme débouchera sur une forme de barbarie. Il disait dans ses derniers écrits, dans ses derniers moments de sa vie, que selon lui, nous étions rentrés dans une phase où le capitalisme était en train de s'effondrer avec une forme de bifurcation, soit cette sortie du capitalisme se fera dans une logique barbare, soit elle se fera de façon civilisée et que d'une certaine manière, l'orientation que nous pourrons prendre, elle nous appartient à nous, collectif, société, dans la mesure où on peut effectivement changer ce paradigme et empêcher la logique économique aujourd'hui de soumettre toutes les sphères de la vie à sa propre logique qui est une impasse.
Merci à Christophe Fourel qu'on vient d'entendre et qu'on retrouvera demain autour d'André Gors. Les archives, la voix d'André Gors provient d'une série d'émissions de France Culture qui date de 1991, il y a exactement 20 ans. Dans les archives de France Culture, vous trouvez pas mal d'autres émissions
sur André Gorce, avec sa voix, avec des propos à son sujet. Merci à Catherine Louis, merci à tous. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et nous faire des commentaires. Également sur là-bas.org, là-bas.org, réécoute possible et commentaires souhaités. Le livre qui a été évoqué, c'est André Gorce, un penseur pour le 21e siècle, dirigé donc par Christophe Fourel, avec toute une série de contributions à la technique aujourd'hui. Philippe Duclos et Sandrine Laurent, Koye Nguyen et Franck Adhérère ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Le Bot. Et Marina attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Bonjour, ici Maud Fontenoy. La mer, vous le savez, c'est ma passion. J'aimerais vous la faire partager. Je vous invite du 8 au 13 juin à participer aux Journées de la mer. Baptême de plongée, projection de films, visite d'aquarium, découverte de sites marins, plein d'activités à retrouver sur www.lesjournéesdelamer.fr.
Ceci est un message du ministère du Développement Durable.
Attention, mardi dernier, le jackpot Euromillions n'a pas été gagné. Ce vendredi, il atteindra près de 68 millions d'euros. Voir règlement sur fdj.fr.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche? Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Ceci est un message de Bleu Ciel d'EDF.
Quand on a déménagé, on a changé d'adresse.
De numéro de téléphone.
De voisin, les enfants ont changé d'école.
On a changé nos habitudes.
On a aussi changé nos contrats d'énergie.
En effet, grâce à notre conseiller EDF Bleu Ciel, on a bénéficié d'un conseil tarifaire pour choisir nos contrats d'énergie adaptés à notre nouveau logement et à nos habitudes de consommation pour l'électricité et le gaz naturel. Ça nous aide à optimiser notre budget énergie, tout simplement.
Appelez le 09 69 32 15 15, appel non surtaxé. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter et le Théâtre de la Bastille présentent, jusqu'au 1er juillet, deux créations du collectif Les Possédés. Dans « La planète » du russe Evgeny Grishkovets, un homme parle d'une femme qui ne le voit pas, mais qui est là, sur scène, à côté de lui. La force de Grishkovets est d'inventer un texte poétique et drôle, coincé entre désir et réalité. En adaptant « Loin d'eux » de Laurent Mauvignier, Rodolphe Dana plonge dans un monde prolétaire où la dignité consiste à garder le silence. À retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter, partenaire de la 8e édition du Lille Piano Festival, les 17, 18 et 19 juin, organisé par Jean-Claude Casatsu et l'Orchestre National de Lille. À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Liszt en 2011, une trentaine de pianistes invités rendent hommage au compositeur. Récital, concerto, jazz, spectacle jeune public et cinéma. Et retrouvez Lille Piano Festival dans le Carrefour de l'Odéon le vendredi 17 juin à 16h. Renseignements sur franceinter.com.
16h et des poussières sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Le gouvernement prend très au sérieux les inquiétudes de la CGT, de PSA, Peugeot, Citroën. Après la révélation d'un document interne qui annonçait la fermeture de deux sites du constructeur automobile, dont celui d'Aulnay-sous-Bois en 2014. Et malgré le démenti de la direction qui dit que ces fermetures ne sont pas d'actualité, Éric Besson, le ministre de l'Industrie, s'entretiendra ce soir avec le président du directoire de PSA, Philippe Varin. Yvan Colonna dénonce un faux, une lettre qu'il n'a jamais écrite. Pour la première fois, celui qui est rejugé par la cour d'assises spéciale de Paris pour l'assassinat du préfet Erignac s'est exprimé sur la lettre retrouvée dans la cellule de Pierre Alessandri, l'un des membres du commando. « C'est mon écriture, ce sont mes mots, ce sont mes expressions, mais cette lettre, je ne l'ai pas écrite, c'est un montage », a dit Yvan Colonna à la barre, rappelant que depuis 8 ans, il avait écrit énormément de lettres, mais jamais à Pierre Alessandri. L'auteur de la lettre menace celui-ci de représailles s'il ne fait pas tout pour innocenter Colonna au procès. Thalès devra payer. La cour d'appel de Paris rejette le recours engagé par le groupe de défense contre la sentence arbitrale rendue en 2010. Un jugement qui condamnait Thalès à rembourser des centaines de millions de dollars à Taïwan pour des commissions indûment versées sur la vente de frégates en 1991. François Fillon évalue à près d'1 milliard d'euros la somme globalement consacrée au soutien des agriculteurs victimes de la sécheresse. Ce matin, lors d'un déplacement en Charente, Nicolas Sarkozy a présenté un plan d'aide aux éleveurs qui prévoit notamment de décaler d'un an les remboursements de leurs prêts et de les exonérer de la taxe sur le foncier non bâti. L'État va également verser 200 millions d'euros au Fonds national de garantie contre les calamités agricoles pour pouvoir indemniser les agriculteurs dès le mois de septembre. C'est mal parti pour le vote d'une résolution sur la Syrie à l'ONU. La Russie, l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité et qui possède donc un droit de veto, s'y oppose. Selon un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, une résolution condamnant la répression en Syrie pourrait aggraver la situation dans le pays. C'est une première qui risque de faire jurisprudence. La Cour d'appel de Versailles condamne le laboratoire UCB Pharma à verser 1 700 000 euros à la famille d'un garçon handicapé du fait de sa naissance prématurée. Sa grand-mère avait pris du distilbène pendant sa grossesse, ce qui avait causé des malformations chez sa fille, laquelle, devenue adulte, a accouché prématurément. On estime que 160 000 enfants en France ont été exposés au distilbène in utero et cette décision pourrait inciter d'autres victimes de la troisième génération à se lancer dans ce combat judiciaire. 2 médicaments antidiabétiques suspendus en France, commercialisés sous les noms d'Actos et Competact par le laboratoire japonais Takeda. Ils contiennent de la pioglitazone qui augmente le risque de cancer de la vessie chez les hommes. 300 000 patients sont traités avec cette molécule en France. La vente est suspendue dès aujourd'hui et l'AFSAPS recommande aux patients qui prennent ces médicaments de ne pas arrêter leur traitement et de consulter leur médecin.
Tous les jours,
dernier mot avant qu'on vous emmène,
à partir de 11h,
flûte,
le fou du roi,
Stéphane Bern.
Le mot que vous détestez,
banlieue.
Retrouvez Stéphane Bern et toute son équipe demain vendredi dans Le Fou du Roi, en compagnie de Bruno Solo et François Ruggieri.
Le Fou du Roi.
Ben oui, oui, oui.
Tous les jours sur France Inter, à partir de 11h. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter et après cette actualité très chargée, un petit peu de musique classique avec Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Dans quelques minutes, à la demi à peu près, je recevrai la brillante et adorable pianiste Shani Di Luca pour un disque Beethoven qui vient de paraître. Et avant, une voix absolument géniale qui m'a toujours sidéré personnellement. Et évidemment, les pianistes comme les autres essayent toujours d'imiter la voix. C'est celle du géant russe Dmitri Khovorostovsky. Il faut s'entraîner un petit peu pour dire le H aspiré avant son nom. Et il donne vraiment de toute sa voix dans un disque intitulé Credo. Et le titre de ce qu'on va entendre de Bourmaguine, c'est Le Bon Larron. Le Bon Larron, vous savez, celui qui a été gracié. Et c'est pour le vendredi 5 que ça a été écrit. Le texte en français dit « Seigneur, tu as en un instant jugé le Bon Larron digne du paradis. Éclaire-moi par ta croix et sauve-moi. »
Rasoi
Le bon larron de Bourmaguine, interprété par le colossal Dmitri Rostovski, qui est un baryton avec des tendances à la basse, on l'a entendu. Et il était accompagné par le chœur de chambre de Saint-Pétersbourg, dirigé par Nikolaï Korniev. Si vous aimez l'âme russe, ben voilà pour vous. Ce soir, à la Sainte-Chapelle à Paris, c'est 4 boulevards du Palais, dans le premier arrondissement, métro, cité, Châtelet, Saint-Michel. 2 grands concerts, chants traditionnels, valses, romances et musique russe par le grand orchestre de Balalaïka Saint-Georges. 25 participants, balalaïka bien sûr, instruments à cordes triangulaires que vous connaissez peut-être, et puis des voix magnifiques, tous dirigés par Petia Jacquet-Pritkov. Ce soir, 20h30, et demain à la même heure, 20h30, à la Sainte-Chapelle à Paris. Et si vous êtes dans la région du sud-ouest, par exemple, il y a un très beau festival qui se poursuit, qui s'appelle le Festival des Abbayes, c'est dans les Landes, et là vous pourrez aussi entendre de la musique russe, par exemple, il y a